Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». L'autre jour, je me suis amusé à regarder dans le dictionnaire, sans vouloir faire de publicité, le petit Larousse illustré. Et j'ai cherché quelques mots russes qui sont passés dans la langue française, qui ont été enregistrés dans le dictionnaire. Alors, j'ai trouvé izba, samovar, moujik, vodka, balalaïka, chapka. J'ai aussi trouvé le mot knout. Vous savez, ce fouet qui servait à ramener à la raison les cerfs un peu trop indociles. Et surtout, j'ai trouvé un mot entré dans le langage courant, le mot « goulag ». Alors, le goulag, qu'est-ce que c'est que le goulag ? D'abord, le nom est une abréviation, comme très souvent dans la Russie soviétique ou même dans la Russie tout court, des abréviations donnent un nom commun. Goulag, c'est Glavnoye Upraveniye Lageri, c'est-à-dire direction centrale des camps. Ironie du sort et de l'étymologie, le mot lager, le camp, vient de l'allemand. Étrange. Le mot goulag, il a été connu en France par le très grand public, surtout en 1974, lorsque paraît en français l'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Alors, depuis, les publications se sont multipliées, mais qu'était-ce vraiment que le goulag ? Quelques chiffres, qui donnent le frisson par leur ampleur, et même qui nous dépassent un peu parce que lorsque ça atteint de telles quantités, on ne réalise plus très bien de quoi il s'agit. On compte que en 25 ans, 25 millions de soviétiques ont été déportés ou internés dans les camps. 25 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de tous âges. Et pour les trois quarts, c'était des gens ordinaires. C'est une des caractéristiques du goulag. Les grands adversaires du régime, on ne les envoyait pas en camp. On les fusillait. Un peu plus tard, on les a chassés du RSS, mais au départ, on les fusillait. Donc, c'était des gens ordinaires. Des gens ordinaires et qui, souvent, ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Et le système était tellement écrasant et tous les survivants redisent à peu près la même chose. Ils ne savaient pas pourquoi et ils ne cherchaient pas à savoir. Alors, d'abord, il faut balayer une légende. On a dit que le goulag, c'était une création de Staline. C'est vrai et c'est faux. Mais c'était tellement pratique de dire « Ah, voyez, le communisme, c'est bien, si Staline n'avait pas. » Non. Dès 1918, alors que Lénine est encore en pleine possession de ses moyens, pour au moins 4 ans, il décide la création des camps. Et si le système s'est mis en place petit à petit, notamment en 1923 avec la création d'un camp aux îles Solov qui, au niveau de la mer Blanche, c'est quand même sous Lénine que ça a été décidé. Alors, après, ça s'est déchaîné à la fin des années 20. Pourquoi ça s'est déchaîné? Parce que Staline avait mené l'industrialisation à mort. La collectivisation des terres. Et lorsque les gens n'étaient pas d'accord, eh bien, il y avait un moyen très simple. On les déportait. On les déportait vers l'Est. En fait, le terme de goulag lui-même n'est rentré dans le langage courant qu'en 1930. Et ce qui est très étonnant, c'est que la population pénale, la population des camps, devient une main-d'œuvre pour le régime. Je vous propose une première pause musicale. Voici ce que déclarait le génial Staline en 1929. Nous marchons à toute vapeur sur la voie de l'industrialisation vers le socialisme, laissant derrière nous notre retard russe séculaire. Nous devenons le pays du métal, le pays de l'automobile, le pays du tracteur. Et quand nous aurons installé l'URSS sur l'automobile et le Moujik sur le tracteur, qu'ils essaient de nous rattraper les honorables capitalistes qui se targuent de leur civilisation. C'est extrait de l'article Le Grand Tournant, publié dans la Pravda en 1929, pour le 12e anniversaire de la Grande Révolution socialiste d'octobre. Alors, industrialisation à marche forcée. collectivisation, accélérer les campagnes. Prétendue planification maîtrisée. L'article de Staline donne le signal d'une accélération catastrophique des grandes orientations prises quelques mois auparavant. Les régions agricoles les plus productives sont collectivisées. On réalise le premier plan quinquennal en 4 ans. Et ceux qui renâclent, sont arrêtés, condamnés à des peines de camp. Le goulag fournit la main-d'œuvre nécessaire pour les projets grandioses du petit père des peuples. C'est aussi, parallèlement, la grande époque de la sacralisation de Staline, le nouveau Lénine. N'oubliez pas que on ne parle plus de marxisme, mais de marxisme-léninisme. Et alors, les historiens font quand même la différence entre les détenus, ceux qui étaient dans les camps. Il en est passé à peu près 19 millions entre 1929 et 1953. Et les déplacés, les déportés, les koulaks qui ne veulent pas la collectivisation, les minorités ethniques qui ne veulent pas se soumettre aux ordres de Moscou. L'avantage avec les déportés, c'est qu'ils sont déportés sans jugement. Et on ne fait pas le détail. Si quelqu'un dans la famille est soupçonné d'être un koulak, on déporte toute la famille. Pour parfois des projets qui sont grandiosement stupides. Entre 1931 et 1933, on parle partout du Biélamor Canal, un canal qui doit relier la Baltique à la mer Blanche et qui, dès le départ, s'avérera totalement inutilisable. C'est aussi l'époque où la Colima commence à accueillir ses premiers déportés, ses premiers internés, pardon, ses premiers condamnés. Et la Colima, c'est à l'extrême nord de la Sibérie. Il y a à peu près, on sait que un détenu sur 6 est mort dans les camps. Et en fonction de l'article, ce qu'on appelle, qui est devenu légendaire, l'article 58, qui sert à condamner tout acte contre-révolutionnaire, comme la trahison de la patrie, l'insurrection armée, l'espionnage, le terrorisme, la propagande contre-révolutionnaire. Alors, sous ces termes très vagues, n'importe quoi peut être dit, peut être fait, peut être utilisé. Certains sont revenus des camps. Mais il y a eu des grandes poussées, notamment en 1937-1938, au moment de ce qu'on appelait les grandes purges, où il y a eu quand même 750 000 condamnés à mort. Et les chiffres sont parfois très difficiles à trouver, mais on compte en 1952, un an avant la mort de Staline, qu'il y a dans les camps 500 000 femmes et 35 000 enfants. Alors les enfants, c'était les enfants des femmes arrêtées, les enfants des parents disparus. Et parmi ces enfants, ces orphelins, on compte qu'il y a 40% de mortalité. Alors voilà, parmi les nombreux souvenirs écrits par les survivants, Celui d'une femme ordinaire. J'ai été embauché dans une usine de fabrication de jouets en papier mâché. Un bon travail, léger, c'est là que je me suis fait prendre. Pour fabriquer ces objets en papier mâché, on utilisait de l'amidon. Alors, bien sûr, comme nous avions tout faim en permanence, on en détournait un peu, on faisait des sortes de galettes. Moi, je me suis fait prendre parce que je bourrais mes poches de ces galettes pour en donner à des potes. Une fille qui travaillait à l'atelier m'a dénoncé. J'ai pris 5 ans pour vol de la propriété sociale. C'était le minimum, j'ai eu de la chance. C'était à l'automne 1947. Je suis arrivé à la Colima. Parmi les femmes, la plupart avaient, comme moi, été condamnées pour avoir chapardé des pommes de terre, des épis. Le travail n'était pas plus dur que ce que j'avais fait avant, plutôt même moins dur. Je travaillais à la buanderie de l'hôpital, je coupais du bois de chauffe. Il y avait un grand camp attaché à l'hôpital. Je n'avais pas plus faim en camp qu'en dehors du camp, à vrai dire. J'avais toujours faim en permanence. J'étais libéré en décembre 1950. Je suis resté travailler à l'hôpital comme femme de salle, puis à l'infirmière. Je me suis marié, j'ai fondé une famille, j'ai eu 2 fils. Mon mari, je l'ai connu en camp, il avait été condamné à 7 ans, sous prétexte qu'il avait détourné de l'alcool industriel. Moi, de l'amidon, lui, la colle. Alors, le système va durer au moins jusqu'en 1958. Première attaque, c'est en 1956, lorsque Khrouchtchev, dans un rapport dit secret, a dénoncé les crimes de Staline. Et pourtant, personne pratiquement n'en parlait. Ne parler de ces millions d'hommes, de femmes, à la recherche de nourriture, de vêtements, dont il ne reste aujourd'hui à peu près aucune trace. Dont les cadavres ont été enterrés dans des fosses communes. Alors bien sûr, il y a eu, avant le régime soviétique, il y a eu des gens qui ont été déportés. J'évoquerai simplement un texte parmi les plus connus, celui de Dostoïevski en 1886, Souvenir de la maison des morts. Mais en 1893, Anton Tchekhov avait écrit un reportage. Il avait passé 3 mois dans l'île presqu'île Sakhaline. Il a écrit l'île de Sakhaline. Alors, évidemment, le camp a été utile. Souvent, les juges ou improvisés juges préféraient ça à la peine de mort. Mais au temps du tsarisme, les gens qui étaient déportés avaient des situations très différentes de celles des déportés du Goulag. Je citerai simplement l'exemple sans doute le plus fameux pour le sujet qui nous intéresse. Lénine a été déporté. Et en déportation, il a réussi à se marier. Il s'est marié avec Krupskaya. Staline a été déporté. Plusieurs grands personnages ont été déportés. Mais ils avaient des conditions de vie, par exemple. En 1825, à la mort d'Alexandre Ier, il y a eu ce qu'on appelle la révolte des décembristes. Des gens qui étaient révoltés, des officiers la plupart, contre le régime tsariste. Des princes, ils ont été déportés, mais leurs épouses les ont suivis, se sont installés en Sibérie. Il n'en était pas question sous le régime soviétique. Je vous propose une deuxième pause musicale. Alors, une comparaison que l'on trouve souvent sous la plume des historiens, je ne suis pas sûr qu'elle soit très pertinente, mais ça s'impose un peu à l'esprit. Le parallèle avec l'Allemagne nazie. D'abord, signalons que les Soviétiques avaient une large longueur d'avance, puisque le camp de Dachau en Allemagne, a ouvert qu'en 1933. Et à l'époque, les nazis avaient justifié la création de ce camp de Dachau en disant que l'exemple venait des Anglais. Lorsqu'ils étaient en Afrique, ce qu'ils ont fait avec les bourgs pour les Allemands correspondait à un camp de concentration. Mais en Allemagne, l'existence des camps n'était pas cachée. Ce qui se passait à l'intérieur, peut-être. Mais le nom était connu. Alors, une petite parenthèse, si vous voulez bien. Voisine, proche, idéologiquement et géographiquement de l'URSS, la Chine a suivi l'exemple soviétique. Alors, on parle de goulag chinois, c'est un peu extrapolé, mais il y avait quand même une chose. Il y a, paraît-il, là, je n'irai pas plus loin, il y a, paraît-il, toujours une différence. C'est que les Chinois qui sont envoyés dans les camps, on cherche à tout prix à les rééduquer. Alors, certains historiens affirment, encore une fois, je me garderai bien d'aller plus loin que cette phrase, des historiens affirment que la Corée du Nord a aussi son goulag, son organisation des camps. Alors, comment on appelle les gens qui sont dans les camps? Les Zek. Zek, c'est un diminutif, c'est pour Zaklutchoni, les internés. Et une chose, on l'a su plus tard. Lorsque quelqu'un disparaissait, sa famille essayait de savoir où il était. Lorsque la famille n'avait pas été elle aussi déportée. Et des gens faisaient la queue pendant des heures devant les prisons pour avoir des nouvelles d'un père, d'un frère, d'un fils. On trouve cela dans le très beau livre de vers de Anna Akhmatova, Requiem. Et on a su plus tard que tous ceux à qui on a répondu que la personne qui recherchait avait été condamnée à 10 ans sans droit de correspondance, cela voulait dire qu'il avait été fusillé ou qu'il était mort. Alors me direz-vous, que savait-on et qui savait ce qui se passait dans le goulag? Alors, il y a des grands noms qui viennent à l'esprit. Une femme célèbre à l'époque, c'est Margaret Buber Newman. C'était une Hollandaise qui était devenue communiste en 1926, comme beaucoup de gens à l'époque, parce qu'elle croyait à l'avenir lumineux du communisme. Et en 1935, elle se réfugie à Moscou pour échapper à la mainmise progressive des Allemands sur la Hollande. Elle est donc à Moscou et puis, en 1938, elle est arrêtée. Elle est arrêtée et elle est déportée à Karaganda, en Sibérie. Et lorsque les Allemands et les Russes signent un pacte de non-agression, les Russes, pour montrer leur bonne volonté, la livrent aux Allemands en 1940. Les Allemands, ni une ni deux, la déportent à Ravensbrück. Ravensbrück, où elle va passer 5 ans. Elle sera d'ailleurs la compagne de détention de Germaine Thiers. Et lorsque elle a échappé par miracle, à Ravensbrück. Elle a essayé de témoigner, et personne ne l'a écoutée, personne ne l'a cru, parce qu'il y a eu immédiatement une chape de plomb sur tout ce qu'elle avait pu dire. En 1949, elle va soutenir Kravchenko dans son procès contre l'aide française, dont nous reparlerons bientôt. Elle est morte en 1989. Un autre exemple. Un auteur de mère française, Jacques Rossi, qui devient aussi communiste en 1927. Il est alors en Pologne. Il est envoyé à Moscou, puis en 1937 en Espagne. Lorsqu'il est en Espagne, il est rappelé à Moscou et il est arrêté. Il sera libéré en 1957. Il va finalement se fixer en France en 1985. Il a écrit un livre remarquable de pertinence et de sobriété, le manuel du goulag. Alors, Jacques Rossi, Margaret Bobernoman, une autre personne a connu quelques mois le goulag, quelqu'un qu'on ne s'attendrait peut-être pas à trouver ici, Menahem Begin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.
И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить. Шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала это, светлый день и опустелый дом. Уже безумное крыло души закрыло половину, и поет огненным вином, и манит в черную долину. Поняла я, что ему должна я уступить победу. Прислушиваясь к своему, уже как бы чужому бреду, и не позволит ничего окаменелые страдания. День, когда пришла гроза, не часть тюремного свидания, не милую прохладу рук, не взволнованные тени, не отдаленный легкий звук слова последних утешений.